Cet épisode vous est présenté avec la lumineuse participation de Vincent Pierremont, Frédéric Gérez, Éric Fonjalaz, Bastien, Christo36, Jérôme Riant, Édouard Verneret, Karl Roberge, Jean-Philippe et Mathieu Chauvet.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, vous le savez, c'est le podcast bimensuel où on vous parle technologie, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler des choses qui nous tiennent à cœur, c'est-à-dire les gadgets, les produits physiques qu'on peut tenir dans nos mains, qui ont été annoncés par Google d'une part et Apple d'autre part. Et on aura quand même aussi un petit sujet pour nous faire peur sur des hackers terribles qui hackent ce qu'il y a de plus secret et de plus précieux dans nos vies d'utilisateurs d'Internet, c'est-à-dire les photos de Snapchat, qui sont peut-être pas forcément aussi précieuses que ça pour nous, qui sommes un peu âgés, mais que les plus jeunes utilisent parfois de manière un petit peu osée, et il se retrouve que ces photos qui sont censées disparaître dès qu'on les regarde sont peut-être un petit peu partout dans la nature. On a aussi Whisper, ce réseau social secret qui finalement n'est pas si secret que ça, et d'autres choses dont on vous parlera. Je vous spoil tout de suite la fin. C'est pas si scandaleux que ça ou pas si mystérieux que ça. On a des explications à tout ça, et comme d'habitude, ça a à voir avec la sécurité que chacun veut bien s'imposer à lui-même. Mais en attendant, on va parler de choses joyeuses, c'est-à-dire de Google Nexus et d'Apple iPad, par exemple, avec mes deux animateurs absolument préférés dans le monde entier. J'ai nommé Jeff Clavier, qui nous rejoint de la Silicon Valley. Comment vas-tu, Jeff ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous ne le savez pas, mais j'étais en retard, donc on va parler très vite aujourd'hui.
Oui, Jeff est quelqu'un d'un tout petit peu occupé, on en a l'habitude. En fait, c'était un moyen subtil de me dire que je vais pas assez vite, c'est ça ? J'ai bien compris, Jeff. C'était bien mené. Et Jérôme Kainborg, mon camarade d'upload qui s'y connaît bien en machine mobile et qui nous prêtera son expertise pendant cette émission aussi. Comment vas-tu, Jérôme ?
Eh bien, écoute, ça va. Je reviens de Clichy Valley. C'est un peu moins ensoleillé quand même aujourd'hui.
Un peu moins que... Oui, c'est vrai qu'il a plu un petit peu. Ouais. On a d'ailleurs, avant de se lancer dans les questions des produits, je vais vous signaler tout de même qu'on est allé un petit peu plus en profondeur qu'on ne va le faire sans doute aujourd'hui dans les annonces de Google et d'Apple et de la manière dont on utilise nos appareils mobiles aujourd'hui dans l'upload qui va sortir jeudi après la sortie de ce rendez-vous tech, c'est-à-dire jeudi 23. Donc là, on va en parler bien sûr, mais si vous voulez encore plus de détails, vous pouvez aller écouter cet upload qui sort jeudi 23. Bon, lançons-nous donc tout de suite dans le vif du sujet. Avec les annonces de Google qui nous ont fait une immense keynote incroyable avec des feux d'artifice, des gens qui sautent d'avion. On me dit dans l'oreillette qu'en fait, ils ont annoncé tous leurs nouveaux produits avec un article dans un blog.
Ouais.
Bon, ok, c'était un petit peu presque inhabituel, mais bon.
Ouais, mais finalement, c'est une technique aussi pour se faire remarquer. De ne pas vouloir se faire remarquer. Voilà.
C'est pas faux. D'ailleurs, quand on voit le temps qu'ils ont pris dans la conférence Apple pour le nombre de produits qu'ils ont annoncé, on se dit qu'ils auraient peut-être pu le faire dans un blog eux aussi, hein. Mais bon, on va y venir. Donc, Google Nexus, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé le Nexus 6, qui est un téléphone qu'on attendait, qui avait été leaké un petit peu partout. C'est un téléphone assez grand, même très grand, qui fait 6 pouces, la taille des tablettes Kindle d'Amazon dont on parlait il y a quelques semaines. 6 pouces, c'est plus grand que l'iPhone 6 Plus. Il a un écran qui est Quad HD, c'est-à-dire 2560x1440 pour les connaisseurs, un écran qui aura une grande finesse même avec cette taille, un processeur rapide, une caméra 13 mégapixels, un chargement turbocharging, c'est-à-dire qu'en 15 minutes, on peut avoir 6 heures d'autonomie, on charge pendant 15 minutes et il tient pendant 6 heures, ce qui peut être très très pratique. Les précommandes, on commence à la fin du mois et là où le bas blesse et là où on en discutait dans l'épisode précédent et où les co-animateurs m'ont dit « Ah, mais les Nexus, ils sont toujours très bon marché, ça sera les 300, peut-être 400 € ou dollars parce qu'il est un petit peu plus grand. » Mais généralement, ils les font très bon marché. Eh bien là, bim, 649 $ pour le premier prix. On s'approche des prix d'Apple. On s'approche, à vrai dire, des prix habituels de ce type de produit de très grande qualité. C'est un téléphone fabriqué par Motorola, mais on est loin des prix que faisait habituellement Google sur sa gamme Nexus, qui était un exemple du plus bas prix pour des produits de vraiment bonne qualité, entre milieu et haut de gamme. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette annonce ? Peut-être d'abord Jérôme ?
Bah, on sent que c'est la fin de la crise. Non, je plaisante. ça m'a surpris qu'ils ne sortent pas une double offre, parce que là, ils laissent vraiment pas le choix. Ils ont sorti une phablette. Je sais que certains n'aiment pas ce mot, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire, qui est un objet à part entière. C'est pas un smartphone, une phablette. C'est vraiment, là, moi, j'utilise le 6 Plus depuis 2 semaines. Je commence à bien l'aimer, à ma grande surprise, mais ce n'est pas un smartphone comme un autre, quoi. Une phablette, c'est un objet à part, à mi-chemin entre la tablette et le téléphone. Et là, il laisse pas beaucoup le choix. Il y a juste cette phablette à 649 $. J'ai été un peu surpris. Je m'attendais peut-être à une version plus petite et un peu moins chère, pour faire un effet de gamme. Alors, est-ce qu'ils vont sortir après?
Il faut préciser qu'ils vendent encore le Nexus 5, hein.
Oui,
si
mais. Là, il est bien, hein, le Nexus 5, hein, crachons pas dans la soupe. Mais c'est quand même un vieux produit selon les standards.
Oui, il a un an, quoi, c'est pas non plus. Mais non, peut-être un peu plus. Non, je crois qu'il a fait un an.
C'est vrai qu'ils ont embarqué du matériel haut de gamme. J'attends de l'avoir en main pour vraiment tester la caméra parce que ça a jamais été le fort de Motorola. Mais c'est vrai qu'ils embarquent du lourd. Donc le prix, on va dire, il est normal. Mais c'est bizarre qu'ils aient pas fait un effet de gamme. Voilà, ce qui m'a surpris.
Jeff, ça t'a intéressé cette annonce du Nexus 6? C'est un petit peu business as usual, comme on dit.
C'est un peu. Ça fait maintenant un an que je me dis, oh, ce serait bien d'avoir un téléphone Android. Et en fait, toutes les 6 semaines, 8 semaines, il y a une nouvelle annonce du dernier téléphone de la gamme d'un constructeur. Et en fait, j'ai pas encore trouvé celui qui me faisait réagir au point où je m'achetais un téléphone Android. Donc, moi, j'ai fait le choix donc du 6. Je suis très content avec mon 6.
L'iPhone
maintenant,
6,
je suis bien habitué, mon iPhone 6. Je vois mon épouse avec son iPhone 6 Plus et je pense que effectivement, comme disait Jérôme, c'est quelque chose de différent, c'est une interaction différente. Je vois pas vraiment mettre ça à l'oreille pour passer un coup de fil. Et donc, je pense pas que le Nexus 6 ce sera pour moi. Même si en termes de spec, ça a l'air assez sympa, quoi. Mais bon, le prix, c'est pas donné, hein.
C'est des prix qui sont quand même un petit peu moins élevés que ceux qu'on voit chez Apple, mais qui effectivement s'en approchent. Bon, on a aussi le Nexus 9, qui est une tablette 8,9 pouces, qui a elle aussi un écran de qualité correcte, qui a un processeur 64 bits, qui est à mon sens une première, je crois bien une première pour la gamme Nexus.
Non, pas que batterie. Nexus, c'est une première en tablette
sur Android.
Ouais.
D'accord. 9 heures de batterie, les précommandes ont déjà commencé à $400, donc l'appareil, ce qui est un prix bon, pas mal pour une tablette 9 pouces, et c'est fabriqué par HTC. Et comme nous le disait ou nous le dira Cédric dans Upload, un des avantages intéressants, c'est que les écouteurs, les enceintes sont en façade, ce qui fait qu'on entend évidemment beaucoup mieux avec cet appareil qu'avec les tablettes classiques où l'enceinte est sur la tranche en bas de l'appareil. Il y en a quelques-unes qui ont fait ça avant. Bon, là non plus, rien d'incroyable. Une bonne petite tablette Nexus. Ce qui est agréable avec le Nexus, c'est que généralement, on peut être sûr que c'est de la qualité correcte et que le prix est juste. Et là, c'est le cas aussi.
Ouais, elle est quand même assez abordable pour ce qu'elle embarque. Moi, je sais que pour rentrer dans le monde Android, parce que je suis comme Jeff, je me dis depuis un an qu'il faudrait que j'ai quand même de l'Android pour comparer. Et peut-être commencer par une tablette, pourquoi pas, je sais pas, je suis en pleine réflexion. Je la trouve sympa.
Bah, c'est pas une mauvaise approche, pardon, excuse-moi, c'est pas une mauvaise approche, mais bon, j'ai déjà un iPad mini. Donc le problème, c'est quel est l'use case que tu veux essayer de prouver. Et pour moi, c'est je passe de mon iPhone à mon Android et je vois comment ça marche au jour le jour, quoi.
Je crois que chez Google comme chez Apple, on en parle déjà depuis peut-être un ou deux ans. On est à un niveau où il n'y a pas vraiment de d'évolution suffisamment importante pour faire évoluer les goûts. On est dans le raffinement plus que dans l'ajout de fonctionnalités convaincantes, quoi. Donc voilà, là on continue dans cet esprit-là. On a aussi du côté de cette annonce, l'annonce de la Nexus Player, qui est la première Android TV, qui est finalement le successeur de la Google TV, mais sous OS Android, donc qui est une box comme on en voit beaucoup aux États-Unis, un petit peu moins en France, qui sera en vente début novembre pour le prix classique de ce type de box, comparable à la Fire TV, Apple TV, etc., c'est-à-dire $100, qui se convertira sans doute en 100€, avec un contrôleur de jeu qui sera aussi vendu pour $40. Là encore, on est assez similaire à ce qui se fait chez Amazon. Là non plus, rien d'incroyable. C'est l'interface Android TV qui est sympa, qu'on avait déjà vu annoncer. Si on est dans l'écosystème Android, ou à vrai dire, même si on est à la recherche d'une machine Android un petit peu plus ouverte que ce qu'on voit chez Apple, ça peut convaincre les gens. En France, je crois que, étant donné qu'on a tous des box de nos opérateurs, des box relativement performantes, on n'a pas vraiment besoin autant que les Américains de ce type de box, même si, évidemment, certains sont très intéressés par ces appareils. Analyse pertinente, juste, ou vous jetez dessus ?
Non.
Non, enfin, moi, je suis très content de la Chromecast, par contre.
Oui.
Non, je sauterai pas sur le Nexus Player.
La Chromecast qui est beaucoup moins chère et beaucoup plus minimaliste, mais
ça moi, fait pas exactement la même chose.
Pour streamer du contenu depuis votre PC. La Chromecast que j'ai aussi et d'ailleurs qui est en panne. J'espère que Google va me la changer, mais quand elle marchait, elle était bien.
Ce que j'aime beaucoup avec la Chromecast, c'est que comme elle est pas très chère, tu peux en acheter plusieurs pour équiper tous tes écrans. Et ça, c'est vraiment
35€ pour ceux qui savent pas. Jeff, on t'a coupé, pardon.
Non, on a installé dans nos nouveaux bureaux plein de télé avec des Apple TV et franchement c'est très décevant, ça marche jamais. On a des problèmes pour s'accrocher au réseau qui nous permettent de faire des démonstrations. Bon, en gros, ce qu'on fait, c'est les gens viennent pour nous présenter des sociétés et donc ils ont un pitch deck qu'ils vont mettre sur le télé et en fait quasiment une fois sur deux là, ça va se déconnecter, ça va pas marcher. Quand on passe sur un téléphone, c'est pareil. Donc, on a vraiment des gros problèmes avec nos Apple TV. Et on avait essayé la Chromebox, et c'est une merde. On l'a renvoyé. Donc,
peut-être la Chromecast à essayer. Bon, ça va pas forcément marcher avec les appareils Apple, mais ça marche avec un navigateur et avec iCloud. Si toutes les présentations sont sur Apple, elles seront sur iCloud. Et la Chromecast, ça marche très bien. Hein. Franchement, moi, j'ai pas eu de gros soucis une fois que j'ai compris comment ça marchait.
Le problème, c'est qu'on essayait vraiment de trouver une solution qui permette à quelqu'un qui a un MacBook Pro ou un MacBook Air de se connecter sur le réseau et quasiment immédiatement de projeter sur nos écrans sans passer par des fils. Et in fine, on a retiré des fils parce que c'est encore le plus simple, quoi.
C'est vrai que c'est plus fiable, mais avec la Chromecast, en fait, tu lances Chrome, le navigateur Chrome, qui est disponible sous Mac, et il peut caster ce qu'il y a dans le navigateur directement sur la Chromecast.
Tu peux pas le faire d'un PowerPoint ou d'une keynote sur la Chromecast. J'y avais pensé aussi.
Avec iCloud, tu peux. Parce que
tu as Keynote
sur iCloud.
Oui, mais ta Keynote sur iCloud, elle a pas toutes les transitions que tu as dans le Keynote natif. Enfin bon, c'est un peu compliqué. J'ai essayé et je suis comme Jeff, nous on a remis des bons vieux câbles et finalement c'est ce qu'il y a de mieux, quoi.
C'est pas faux. Bon, passons aux annonces d'Apple. Là aussi, ça va aller relativement vite, puisqu'on nous a, ça a pris 1h20 environ. J'ai regardé la keynote qui cette fois-ci, enfin la présentation qui cette fois-ci était bien diffusée en live, en streaming, et qui a fonctionné. Donc ça a marché, c'était bien. Et ils ont passé les premières 30 ou 40 minutes à nous parler de chiffres de vente, un petit peu comme d'habitude, mais un petit peu moins convaincant, je dirais. Et surtout, donc ils nous ont parlé de l'iPhone 6 qui s'est super bien vendu, on le savait déjà, etc., etc. Et puis ils ont parlé de du produit. Bon, il y avait deux produits qui étaient vraiment intéressants qui étaient présentés dans cette présentation. Je vais tout de suite évacuer ce qui n'était pas intéressant, c'est-à-dire l'iPad Mini 3 qui n'est que l'iPad Mini 2, entre guillemets, c'est-à-dire version Retina et avec le processeur de l'époque d'il y a un an. Mais avec le Touch ID, c'est la seule différence. On n'était pas tout à fait sûr au moment où ils l'ont présenté. Ils ont passé 30 secondes dessus. Donc, a priori, à moins que vous teniez absolument à voir le lecteur d'empreintes digitales sur votre iPad mini, on vous conseillerait plutôt de vous ruer sur l'iPad mini 2 qui, à 299 €, $299 en tout cas, est vraiment à un prix très intéressant. Les deux produits qui ont été annoncés, c'est d'une part l'iPad Air 2, qui réussit à être encore plus fin que l'iPad Air 1 qui était déjà incroyablement fin. Et il est pas un peu plus fin, il est 18% plus fin. Il a un écran anti-reflet, le nouveau processeur bien sûr, dont ne bénéficie pas l'iPad Mini 3. Une caméra 8 mégapixels. La caméra frontale FaceTime HD, donc meilleure qualité. Le Touch ID et le Apple Pay pour le en ligne uniquement. Pas avec le lecteur NFC. De l'autre côté, on a l'iMac Retina qui a enfin été annoncé, que tout le monde attendait. C'est un écran Retina de 27 pouces qui fait 5K, donc 5120x2880, d'une qualité visiblement absolument incroyable qu'il est impossible de voir sur les photos puisqu'on n'a pas la résolution pour voir la qualité de l'écran. Ça fait 14,7 millions de pixels sur cet écran, hein, ils nous ont abreuvé de chiffres. Pour vous donner un exemple, c'est 7 fois plus de pixels qu'un écran HD. C'est-à-dire que votre écran de télé HD dont vous êtes super fier, qui trône dans votre salon avec une diagonale de 55 pouces, eh bien là, il y a 7 fois plus de pixels sur les 27 pouces de l'écran Retina 5K. Et le prix est de $2500. Alors, ça pourrait être considéré comme quelque chose de d'excessif, mais il faut savoir que ce type d'écran, généralement, ils existent chez la concurrence, ce type d'écran coûte $2500 environ seul. Donc là, on a en fait l'ordinateur gratuit à côté, quoi. Bon, évidemment, il faut avoir besoin d'un écran comme ça, mais c'est pas un prix excessif pour ce type de produit en tout cas. Et étrangement, pour Apple, on pouvait s'attendre à un prix plus élevé. Alors, on va en parler un petit peu plus en détail. Vos impressions déjà sur l'iPad Air 2, qui est encore plus fin que l'iPad Air et qui est pas beaucoup plus léger, hein, pour ceux qui se posent la question. Seulement 30 grammes de moins, mais 18% de finesse en plus, ou 18% d'épaisseur en moins. 6,1 mm. C'est incroyable, non?
À ne pas mettre dans sa poche arrière.
Est-ce que ça bend ou est-ce que ça bend pas?
Vous n'êtes pas les seuls à avoir fait la remarque, évidemment.
Non, bah, je pense que c'est bien, mais c'est pas une raison pour changer ton. Tu vois, autant en tant que fanboy au niveau des téléphones, il faut que je trouve une excuse à chaque fois qu'il y a un nouvel iPhone qui sort. Et objectivement, l'iPhone 5S, ça valait pas le coup, même si je l'ai acheté. Là, bon, c'est sympa, mais c'est pas une raison pour upgrader mon iPad 2 et puis mon iPad mini, je sais même pas lequel c'est d'ailleurs, parce que ça a pas d'importance. Je veux dire, c'est fonctionnel, ça fait son truc, et le fait que ce soit plus fin, whatever, quoi.
T'as encore un iPad 2?
Ouais.
Ah oui, ah ouais, d'accord, quand même. C'est marrant, j'aurais pas du tout pensé que t'aurais gardé un iPad de toi, Jeff. On se fait des idées.
Bah ouais, mais tant que je l'utilise pas énormément, c'est fonctionnel. Mmh. Bon, c'est vrai que la batterie dure plus extrêmement longtemps, mais j'ai pas eu de raison particulière de le changer. Ça marche très bien.
Mais ça se comprend tout à fait, ouais. Et toi, Jérôme?
Alors moi, j'ai l'iPad Air 1. Alors j'upgraderai pas à l'iPad Air 2 parce que c'est
Non, là, je serais vraiment.
Mais pour ceux qui sont à l'iPad 2 ou 3 ou Retina, je sais plus les appellations, je conseille vraiment la série Air si vous utilisez beaucoup votre iPad, parce que moi, je sais que je le travaille toute la journée de bureau en bureau et de réunion en réunion. Et mine de rien, la finesse et le poids de cet appareil, c'est un peu comme quand le Mac Air est sorti, quoi. Ça a changé notre vie au bureau, de plus avoir des grosses unités à se trimballer en portable. Bah là, c'est pareil, l'iPad disparaît presque. C'est le poids d'un cahier. Donc, finalement, que tu prennes ton bloc-notes ou que tu prennes un iPad, c'est le même poids et ça le rend beaucoup plus agréable au bureau que les iPads un peu lourds qui étaient les premières générations. Donc c'est un beau produit. Quand même, je remarque que le processeur, pour les gros joueurs sur iPad comme moi, si je pouvais le financer, je le prendrais parce que c'est un beau petit processeur là qu'ils ont mis dedans quand même.
Je pense que c'est effectivement le seul intérêt aujourd'hui de l'augmentation de puissance dans ces machines-là. C'est un cas d'utilisation très très particulier. Généralement, la plupart des choses, c'est pour les jeux.
Oui.
Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le boulot, et on en a parlé justement dans l'upload qui sort dans 2 jours. Et Cédric et toi m'avez beaucoup surpris, comme quoi c'est un épisode plein de surprises, en me disant à quel point, en m'expliquant à quel point vous utilisiez vos iPads pour le travail. Et moi qui utilise beaucoup mon iPad, je commençais à me dire oui, mais peut-être qu'on n'est pas encore à un niveau où ça peut vraiment servir pour le travail. Vous étiez complètement convaincu.
Je l'utilise plus que mon MacBook Air maintenant, mon iPad. Ça dépend du boulot que tu fais, mais moi qui passe beaucoup de temps en réunion, je prends toutes mes notes dessus et c'est devenu mon instrument de travail.
Il faut dire aussi que vous utilisez un stylet particulier, oui, mais qui est très très performant, qui est le Adonit Jot Touch.
Alors moi, je l'ai pas encore, j'ai pas pu le financer celui-là. Okay. J'utilise encore un stylet avec un faux doigt dessus, tu sais, les bambous là. Mais je m'y suis habitué, j'arrive à prendre mes notes presque plus rapidement quand j'écris sur un cahier, quoi.
D'accord. Alors, moi, pour au niveau de cet iPad, j'avais encore mon iPad Air, mon iPad 3 qui commençait à dater un peu. Et après notre discussion dans Upload, j'ai craqué. Et je me suis, comme je suis aux États-Unis dans quelques temps, je me suis dit je vais prendre l'iPad Air 2. Comme je m'en sers beaucoup pour le travail, j'espère que ça va me faire gagner du temps aussi. Et j'espère surtout que je réussirai à l'utiliser autant que vous. Mais c'est vrai qu'il est séduisant, enfin d'une finesse aussi incroyable. Ce qui est sûr, c'est que l'iPad Air, si on l'a, ça vaut rien, ça vaut pas du tout la peine de passer aux deux. Par contre, si on a un iPad 2 ou 3, je dirais, et qu'on s'en sert beaucoup, moi je m'en sers, je suis tout le temps dessus, je pense que ça peut valoir le coup, surtout pour le boulot.
Ok, je vais passer à l'Apple Store et puis je regarderai. Non, je sais plus. Mais simplement, je voulais juste te dire par rapport à ma propre utilisation. Donc, moi j'ai fait le choix du MacBook Pro 13 pouces. Plutôt que le Air, parce que la batterie fait à peu près 8 à 9 heures d'autonomie, et donc j'ai pas besoin de me soucier de recharger, etc., quand je fais un long voyage en avion, etc. Et j'ai mon iPad 2 avec un clavier Logitech qui est un petit peu ma machine alternative, mais dans les faits, je m'en sers relativement peu, sauf, par exemple, quand je suis à une conférence et que je vais modérer un panel, etc., je vais écrire tout, je vais faire mes notes sur Evernote, et puis je vais avoir mon iPad. Donc, franchement, j'ai pas une utilisation telle que Jérôme qui aurait justifié que, pour des raisons de finesse, de performance, je remplace la machine. Et comme j'ai juré de ne plus jouer, hein, après 5 ans de World of Warcraft, j'ai pas regardé en fait l'aspect performance.
Ouais. En fait, effectivement, toi, tu as l'utilisation telle que je l'imagine que la plupart des gens l'ont, c'est-à-dire en consultatif. Et moi, je suis à la frontière entre les deux, et c'est vrai que je me demande si cette utilisation un petit peu plus productive, on va dire, que consultative, sans aller jusqu'à créatif, mais productive, on n'en est pas plus proche qu'on pensait. Et on a entendu bien sûr les rumeurs sur un potentiel iPad Pro qui serait plus grand et qui aurait du vrai multitâche avec deux applications en même temps à l'écran, qui pourrait arriver au début de l'année prochaine, qui nous ferait complètement basculer de ce côté-là. J'espère que ça sera possible sur le nouvel iPad R2 aussi, parce que sinon je serais un peu dégoûté.
Juste un petit mot quand même sur les iPads, parce que je crois qu'on est arrivé au bout de ce que peut être l'iPad d'Apple, et là Apple ferait quand même bien de se réveiller, parce que je pense que le marché de la tablette il stagne, parce que les tablettes Apple stagnent, et qu'il serait bien qu'ils sortent vraiment des nouveautés. Microsoft a commencé à faire des choses autour de la tablette, des claviers intégrés, des stylets. Là l'iPad dans sa forme simpliste de tablette un peu consultative, où on est obligé de prendre des stylets qui vont pas avec. Ils ont intérêt, en tout cas, à faire évoluer le produit, je pense.
C'est sûr qu'on est un petit peu à un niveau de stagnation. C'est marrant parce que je vais aller à la NipConf de nos amis de Nipcast et de Niptech en Suisse ce week-end, et je pense on va faire une petite mini émission que je mettrai à la fin du prochain épisode du Rendez-vous Tech. Sur place, et je me disais, il serait intéressant de débattre justement de cette question, est-ce qu'on est arrivé à un plateau pour les iPads, mais pour d'autres choses aussi, pour les téléphones, pour les systèmes d'exploitation, OS 10 et Windows 10 sont un petit peu l'aboutissement ultime de ces formes-là, et est-ce que les choses, on n'est plus que dans le raffinement finalement là aussi, et je me demande s'il est possible d'avoir quelque chose de vraiment intéressant dans ces espaces encore. C'est une question un petit peu provoque, mais...
Est-ce qu'on est arrivé à la fin des temps?
La fin de l'informatique traditionnelle, la perfection qui ne peut plus s'améliorer. Une petite note pour dire à nos amis fans d'Android que le Xperia Tablet Z2 de Sony est presque aussi fin que l'iPad Air 2, qu'il est 2 grammes de plus et qu'il fonctionne sous Android 4.4. C'est une tablette 10 pouces, donc un petit peu plus grande, avec une résolution un peu moins élevée, mais ça peut être une alternative intéressante. Et donc pour conclure sur cette partie Apple, on dira un tout petit mot sur l'Apple SIM. L'iMac Retina 27 pouces, moi je suis pas tellement Mac pour écran de bureau, mais beaucoup de gens disaient c'est la machine dont on a besoin, même pour le montage vidéo, en fait, avec les derniers processeurs qu'ils utilisent, c'est une machine qui est largement suffisante si on veut s'équiper. On n'a même pas vraiment besoin d'un iPad, d'un Mac Pro. Il vous séduit ce concept de tout en un, avec écran plus que Retina HD, enfin cet écran 4K énorme. C'est le silence total.
Moi, oui, j'aimerais bien pour le montage vidéo. C'est pas du tout, je peux pas du tout me le payer actuellement. J'ai beaucoup regretté qu'Apple ne sorte pas un écran Retina 5K, surtout que cet iMac, on ne peut pas l'utiliser comme un écran externe comme les autres iMac. Tu peux pas y brancher une autre machine. Donc moi j'avoue que si Apple sortait un écran 5K pas trop cher, ça m'intéresserait beaucoup, parce que quand on fait du montage vidéo, surtout en 4K, c'est bien d'avoir un écran 5K, ça permet d'afficher les outils autour de son image. Donc c'est pour ça que c'est un bon produit
pour les monteurs.
Enfin, qui fait
du montage 4K, quoi?
De plus en plus.
Beaucoup de gens, dans le principe, oui, mais je veux dire, toi, tu vas pas faire du montage 4K, si?
Détrompe-toi, parce qu'en fait,
ça commence à arriver.
Non, mais même si tu sors derrière en 1080, le 4K va te permettre de stabiliser une image et de la sortir en 1080 très stabilisée. Donc
ah
on
oui,
va
bien
bosser
sûr,
parfois
il faut...
avec du brut 4K. Ouais.
Ah, tu veux dire professionnellement? Je pensais à Nowtech TV.
Pas encore, mais ça va peut-être venir.
Ça arrive.
Ouais, d'accord. Ça arrive très vite.
C'est vrai que ça risque d'arriver plus vite qu'on ne le, ne le pense. En même temps, ça a été initié il y a un moment. Ok, Jeff, un truc à conclure sur cet iMac Retina?
Non, ça a l'air d'être une super machine et je vais définitivement passer par l'Apple Store pour jeter un coup d'œil sur l'iMac. Non, ça j'avais prévu de le faire, mais également l'iPad Air. Le souci, c'est ça, c'est quel est ton use case. J'avais acheté un iMac à ma chère étante pour qu'elle puisse faire de la vidéo et de la photo il y a longtemps. Il commence à s'essouffler. Bon, ça a l'air d'être une super machine. De là à dire bon, on va faire de la vidéo 4K machin, ce sera pas notre cas. Moi, j'attendais un petit peu le prochain Apple Display, parce que j'en ai deux qui commencent à être un peu vieux, mais manifestement, c'est pas quelque chose que Apple a choisi de rafraîchir.
Non. Effectivement, ça viendra peut-être un petit peu plus tard. Je pense que effectivement, cette finesse d'écran qui est certainement très appréciable, c'est comme on en parlait à l'époque des premiers écrans Retina, une chose qui ne nous manque qu'une fois qu'on l'a eu. Donc moi, j'attendrai que ça se démocratise un petit peu plus. Et puis
si
on
tu
verra,
l'as eu,
moi,
tu l'as... si tu l'as eu, ça te manque pas?
Non, bien sûr. Enfin, une fois qu'on l'a vu. Alors, je vais pas aller dans les écrans.
Voilà.
Non, moi, je viens de. Moi, je suis très bien sûr. C'est ça, voilà. Moi, je suis très bien avec mon PC, mon PC en bureau. Et ça, comme je le disais, ça m'intéresse pas forcément spécifiquement. Mais c'est personnel, encore une fois. Deux petites notes sur cette présentation. La surprise qu'il n'avait pas vraiment annoncée, c'est la nouvelle Apple SIM qui est disponible dans les iPads qui ont la connexion cellulaire, qui est une carte SIM Apple qui vous permet de choisir l'opérateur sur lequel vous êtes en temps réel, en fait. Donc, les opérateurs avec qui ils ont un partenariat, évidemment, si vous voulez un autre opérateur, vous pouvez mettre une autre carte SIM dedans, mais par défaut, il y a une carte SIM qui, en l'occurrence aux États-Unis, je ne sais pas si ça sera le cas en France, mais vous propose, pour votre forfait forfait renouvelable du mois au mois sur iPad, d'aller chez AT&T ou Verizon ou T-Mobile, les opérateurs américains, directement depuis l'iPad. Donc on sélectionne l'opérateur qu'on veut avec les abonnements adaptés et les abonnements qu'ils proposent. On avait entendu qu'Apple, il y a peut-être 2 ou 3 ans, voulait convaincre les opérateurs de faire une carte SIM virtuelle qui n'aurait pas d'emplacement même, qui serait exactement ce principe, mais sans même la carte SIM. Tous avaient complètement refusé, d'une part parce qu'ils en parlaient pour le téléphone et que le téléphone c'était beaucoup plus précieux pour les opérateurs parce que les utilisateurs sont beaucoup plus captifs, et là ils le mettent en place avec la carte physique pour les iPads, pour que les gens, parce que si jamais, enfin, les gens sont moins captifs, prennent un abonnement, puis en changent peut-être sur iPad, c'est beaucoup moins important. Ça pourrait vraiment, s'ils étendent ce type de pratique, amener, mettre un coup de pied dans la fourmilière des opérateurs de téléphonie mobile d'une manière qu'on n'aurait pas forcément attendu. Donc voilà, c'est l'Apple SIM, je voulais en parler pour noter cette surprise dont ils n'ont pas parlé.
Ça m'a fait penser à une discussion que j'avais avec le patron de Pritel il y a 2 ans, qui disait que peut-être que dans l'avenir, et lui il souhaitait, peut-être que même dans une même journée, tu vas changer d'opérateur. C'est-à-dire, on peut imaginer des systèmes où tu vas avoir des achats comme ça de minutes ou de data qui vont switcher d'un opérateur à l'autre selon les prix, selon un marché. Alors, je sais que là, si des opérateurs nous entendent, c'est leur cauchemar. Mais bien pour sûr, les consommateurs, ça serait un rêve.
Et effectivement, ça pourrait nous amener dans cette direction, cette Apple SIM qui est surprenante et intrigante, quoi. Dernière chose, le ton de cette présentation qui était assez inédit. Depuis la mort de Steve Jobs, surtout Fred Federighi pousse les présentations Apple vers l'humour beaucoup plus qu'avant. Et là, il en a mis un tel paquet, et c'était, à vrai dire, assez drôle. Moi, j'ai trouvé ça réussi. Il parlait des leaks qu'on avait eus sur l'iPad Air 2 et ces choses-là qui avaient été présentées, enfin, qui avaient été leakées plusieurs jours avant, comme souvent avec les produits Apple. Et là, il faisait tout un plat sur la sécurité renforcée chez Apple, avec des salles avec des lasers pour qu'on puisse pas rentrer, des poignées de main secrètes que Eddie Q, l'un des exécutifs d'Apple, n'arrivait pas à refaire parce qu'elles étaient trop compliquées. Il y a même eu un appel avec Stephen Colbert, le comique américain, qui était le super chef interstellaire de la sécurité, etc., etc. C'était plutôt au bon esprit, bon enfant et assez marrant, j'ai trouvé. Je pensais que Jérôme allait sauter sur l'occasion de dire que
c'était. Oui, non, mais je voulais laisser parler Jeff si.
Il a peut-être pas vu Jeff la présentation. Il est occupé, lui, il travaille, tu sais.
Ouais. Bah moi j'ai trouvé ça effectivement drôle. Après j'ai trouvé que c'était quand même très proche des leaks et ils avaient préparé quand même pas mal de choses. Donc est-ce qu'ils ont fait un leak exprès pour pouvoir faire leur sketch derrière?
C'est possible.
On pourrait le penser.
Ouais. J'y crois pas trop. Bon, Passons maintenant à cette question brûlante de Snapchat. Vous savez
Attends, juste un truc.
Ah oui, pardon, vas-y.
Juste au moment où on parle d'Apple, il y a leurs résultats qui viennent de tomber.
Je viens de les voir aussi.
42 milliards de dollars de revenus en Q4, leur Q4 fiscal. 8 milliards et demi de profit.
Mais c'est quoi
Ce qui représente quasiment 300 millions de dollars par jour. non, qu'est-ce que je veux dire, 100 millions de dollars par jour. 100 millions de dollars par jour.
Non, mais surtout, on est marge opérationnelle. Enfin, les bénéfices, c'est, on est à une marge. Pardon, je trouve plus mes mots. On est à une marge de combien? 20-30% quoi.
C'est ça fait de la marge nette de 20. Ça fait de la marge nette de 25 points. Ouais.
Ouais. Bon, on a l'habitude avec Apple, mais enfin, ces chiffres sont tellement monumentaux.
Ouais, si vous avez eu le nez creux, il aurait fallu acheter de l'Apple avant-hier ou hier, quand c'était bien bas, là. Et là, vous allez bénéficier, à mon avis, d'une belle remontée, ouais.
Et ils ont vendu presque 40 millions d'iPhone.
Ouais, ça, c'est fou.
Voilà.
40 millions d'iPhone. Enfin, on en parlait à l'épisode précédent. On était à des estimations autour de 30 millions qui étaient déjà à des années-lumière de tout ce qu'ils ont fait avant et évidemment de la concurrence. C'est effectivement... enfin, c'est intéressant parce que ils ne font pas des choses incroyables. On n'est pas à l'époque de l'iPhone 1, justement, où ça a transformé le monde entier. Mais ils réussissent effectivement à faire ce genre de chiffres. Je pense que bon, tout le monde entier, enfin toute la presse et les utilisateurs sont d'accord pour dire que l'iPhone 6 est d'excellente facture. Ouais. J'avoue que je m'attendrais quand même pas à un tel succès, quoi, parce que on est à des...
Je pense qu'entre le 6 Plus en termes de form factor, de taille, etc., d'écran, c'est vraiment un nouveau produit entre l'iPhone et l'iPad mini. Tu vas avoir l'iPhone 6 qui est quand même de très bonne facture et t'as plein de gens qui n'avaient pas upgradé iPhone 5, iPhone 5S comme toi, n'est-ce pas?
Bah oui, tout à fait, ouais.
Et donc, ça m'étonne pas outre mesure qu'ils aient eu quand même un énorme succès. Et puis, j'écoutais les chiffres de leur vente en Chine. Et a priori, la Chine,
ouais,
c'est monstrueux.
Ça doit jouer aussi.
C'est monstrueux.
Ouais.
C'est une vingtaine de millions. Ils avaient prévendu ou réservé quelque chose comme 20 millions d'unités.
Non, 20 millions, non, ça me paraît beaucoup quand même.
Non.
Ah, mais okay. Attends, ils ont vendu 1 million dans les 3 premières heures, je crois, des pré-réservations. Oui. Donc ça peut aller vite, hein.
Oui, c'est pas faux.
Et en fait, Tim Cook a vachement bossé le réseau de distribution là depuis qu'il est aux manettes. Ah bah... Et maintenant c'est worldwide et à quelques semaines d'intervalle. Hein.
C'est donc, ça qui est important effectivement. Ouais. Ouais. Ils sont en vente dans la. Enfin, ils ont toujours augmenté le nombre de pays où ils étaient en vente dès le début et très vite après. Donc il faut aussi garder à l'esprit que ils sont en vente dans beaucoup plus de pays très très vite. Donc c'est pour ça aussi que les chiffres montent très vite et plus vite qu'avant. Ouais. Une dernière chose sur les iPads, pour dire que on s'imagine, enfin on constate que beaucoup de gens renouvellent beaucoup moins les iPads que les iPhones, ça on l'a constaté depuis un moment, et on s'est posé la question de savoir si le fait que l'iPad mini 3 soit aussi décevant ou évolue aussi peu par rapport à son prédécesseur n'était pas peut-être pour mettre en avant l'iPad Air qui est plus gros et sur lequel il y a plus de marge bien sûr. Donc,
je trouve ça bizarre la nouvelle gamme. Apple nous a pas habitués à quelque chose d'aussi bordélique que leur gamme mini, où tu retrouves le mini 1, le mini 2, le mini 3, c'est un petit peu bizarre.
Je pense que c'est pour vider les stocks. Hein. Du mini.
Oui, je pense aussi.
Le mini 1 est très bon marché, il est à $249, ce qui est un prix pour une tablette vraiment intéressant. Je pense que le mini 2, c'est le temps de vider les stocks. Et puis je dis souvent, à l'époque de l'iPod, on avait une gamme très très variée. Du nano au vidéo, des gammes très variées. Donc, au fur et à mesure, comme sur Android, enfin, le marché demande de la variété avec Android. Apple, malgré ses fantasmes de pureté et d'unicité, ils sont bien obligés de s'adapter dans une certaine mesure aussi.
Ouais, mais alors moi, ça m'a donné juste une petite réflexion. Après, je laisse la parole à Jeff. C'est que les erreurs que font Apple, on n'était pas habitué à ça, la sortie d'un mauvais truc, des gammes qui ressemblent un petit peu à ce qui se fait chez Android. Apple est peut-être, et je lance le débat, en train de perdre sa singularité. Alors, c'est peut-être une bonne chose.
Mais toutes les six mois, on dit ça.
Non.
Tous les six mois.
Il y a des choses qu'on ne voit, même leur humour, tu vois, de voir des trucs sur la sécurité chez Apple. Bon, on sent qu'effectivement, on est en train de passer à une nouvelle phase chez Apple. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Attention, je suis pas en train de critiquer, au contraire. Je pense qu'Apple doit être une société comme les autres et pas cultiver une espèce de singularité snob. Mais c'est quand même un changement assez radical, même dans l'approche des produits.
Jeff, tu conclus sur Apple ?
Je suis d'accord avec Jérôme que le line-up, donc l'ensemble des produits, ça fait un peu fouillis. C'est-à-dire que tu as beaucoup de choix et c'est pas super clair en fonction de ton... En gros, tu vas déterminer ce que tu vas acheter en fonction de ton budget et non pas forcément ce que tu veux faire avec le produit. C'est assez nouveau. Je pense que le leadership d'Apple, tu le retrouves avec leur annonce sur la montre. Alors, est-ce que la montre va avoir du succès? Est-ce que ça va durer plus d'une demi-journée en termes de charge, etc.? On verra bien quand ils le sortent. Mais c'est vrai que on est dans l'ère post-job. C'est Tim Cook. Je pense que Tim Cook a vraiment pris les rênes avec l'annonce de l'Apple Watch. Et puis on verra un peu comment ça se goupille. Je veux dire, ils sont très 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 bons en marketing, retail marketing. Ils font rarement des choses à la légère. Et on verra dans les quelques mois qui viennent si, comme tu dis, Patrick. Le fait que l'iPad mini 1 et 2 est toujours là, etc., c'est parce qu'ils ont des stocks qui veulent écouler. Même si, typiquement, quand ils ont des situations pareilles, ils vont faire des promotions qui leur permettent de bouger ces produits très très vite. On verra.
Ah bah là, je pense que c'est. Ils ont coupé le prix, hein. $300 pour l'iPad mini 2. C'est...
Oui, mais on va voir si ça disparaît. Si ça disparaît de la gamme complètement après avoir sorti tout ce qui était. En stock, ou si tu vas le voir encore pour 6 mois, 10 mois, 12 mois, jusqu'à ton prochain, ta prochaine annonce, iPad Air 4, je sais pas quoi. Et ça, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les gens se fatiguent un peu, quoi. C'est, l'iPhone 6, je pense, a été un bon reboot. Ça a été une occasion pour les gens de reconsidérer acheter un device Apple ou mettre à jour le leur. Je pense que,
on verra. Sur l'iPad, c'est pas tout à fait.
Sur l'iPad, c'est pas ça, et on risque de voir un ou deux ans ou trois ans sans avoir ça, sauf s'ils introduisent un iPhone 7 ou un iPhone 8 qui sont vraiment très très différents et très.
Ouais,
nouveaux.
Moi je pense pas. Ouais. Enfin bon, bref, ok. Clôturons la longue page Apple et parlons de Snapchat et du. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas de ce qu'est Snapchat, c'est un réseau social d'envoi de photos qui vous permet d'envoyer des photos privées qui disparaissent a priori une fois que vous les avez regardées. Donc, vous pouvez envoyer une photo à quelqu'un, dire il peut la regarder pendant 5 secondes, vous appuyez sur, la personne qui la reçoit appuie sur la photo, elle reste pendant 5 secondes et puis elle disparaît. Alors évidemment, il y a plein de moyens de contourner cette limite et on a appris il y a une semaine que Snapchat avait été hacké et que 100 000 photos s'étaient retrouvées distribuées sur le net, y compris une bonne quantité de photos de personnes nues et d'adolescents et d'adolescentes nues, puisque le sexting est évidemment une pratique courante et visiblement aussi sur Snapchat, même si ça ne sert pas qu'à ça, comme certains peuvent le penser. Donc, d'où elles viennent ces photos? Comment est-ce que Snapchat a été hacké puisqu'il ne garde pas les photos? On savait qu'on pouvait prendre des photos d'écran, ce genre de choses, pour les récupérer, mais là, c'est encore un petit peu différent. Eh bien, il semblerait que Snapchat ait confirmé qu'il s'agissait en fait du hack, non pas de Snapchat lui-même, mais d'un site qui s'appelle SnapSaved, si je ne m'abuse, qui est un site parallèle, qui utilise une API, donc des accès à l'application, mais de manière non officielle, et accessoirement l'API est un peu n'est pas super bien faite, mais il n'empêche, c'est un site tiers, qui a été lui hacké et qui a fait et qui lui permettait de sauvegarder les photos. Donc c'est un petit peu la leçon encore une fois qui alors deux choses à retenir. D'une part, Snapchat directement n'est pas vraiment à blâmer dans cette affaire, mais une fois de plus, on se rend compte que même si on pense que quelque chose va disparaître ou est secret ou est sûr, une fois que c'est sur Internet, on peut jamais être sûr à 100%. Du tout, du tout, du tout. On l'a répété des dizaines de fois dans cette émission. Et là, c'est l'exemple parfait puisque Snapchat, qui est censé faire disparaître les photos, eh ben, ça, là, en l'occurrence, c'est parce que des gens se sont connectés sur ce service tiers, mais imaginez, vous faites tout comme il faut. Vous ne vous connectez pas sur ces services tiers. Eh bien, une personne à laquelle vous envoyez cette photo, qui est connectée, elle, à ce service tiers, pourrait peut-être l'avoir sauvegardée. Pareil avec Whisper, ce réseau complètement anonyme, un petit peu comparable à Secret, où on peut envoyer des choses sans des informations sans être identifié. On a appris par une enquête du Guardian qu'il collectait, sans qu'on le sache, des données sur les utilisateurs. Alors des données de localisation, ce genre de choses, relativement limitées, mais il n'empêche, quand ils mettent l'anonymité de leur service en avant à un tel point, et qu'on se rend compte qu'en fait, ils collectent quand même des données, on se rend compte qu'on ne peut faire confiance à rien sur Internet. Est-ce que je dramatise ou pas?
C'est vrai que pour une appli dont le service est de prendre des photos et de les autodétruire, avoir une API qui te permet d'y avoir accès et de les sauvegarder, ça me paraît un peu mal foutu quand même.
C'est sûr. Et donc, j'ai pas étudié la chose suffisamment. Je sais pas si c'était directement ça ou si sans doute, hein, mais ça me paraît bizarre aussi. C'est un petit peu.
Oui, et peut-être que c'est pas le cas, et peut-être que c'est
un truc illégal
qui a été tapé dans les buffers, les machins, les trucs, et auquel cas, ce serait complètement leur faute. Mais bon, le principe de dire, on va sauvegarder les photos, on va faire en sorte que ces photos ne soient pas sauvegardées par le service de manière à ce que, les cochonneries que vous mettez dessus ne puissent pas être retrouvées. Le fait de mettre ces photos au travers de l'API, si jamais c'est ce qu'ils ont fait, c'est assez naïf.
C'est peut-être aussi le service qui demande le login et le mot de passe, et qui du coup les récupère en émulant l'application. Mais bon.
Oui, je pense qu'on ne sait pas assez là-dessus. Mais c'est vrai que ça prouve que même si le service est relativement blindé et défendu, il y a toujours des API et des choses qui font que toutes les cochonneries que tu mets sur Internet, il faut partir du principe que ça risque de se retrouver devant tout le monde et que tu crois que c'est anonyme. Et en fait, il y a toujours des moyens. Tu vois, il y a eu l'affaire Whisper aussi, où soi-disant que Whisper allait traquer les gens qui postaient de façon anonyme. Ça veut dire ne crois pas dans la promesse de l'anonymité et agis en conséquence.
Oui, on est d'accord.
Moi, j'ai un peu la même réaction. De toute façon, quelque chose qui me garantit l'anonymité ou la confidentialité ou la protection de mes données et où je ne paye pas, de toute façon, je me méfie, je me dis, il y a un loup, quoi. À la limite, je ne ferai confiance qu'à un service parce que je sais que je peux me retourner contre eux s'ils font des conneries. Je fais très attention sur Internet à pas mettre des trucs privés. Il n'y a pas de photos de moi nu. et à la limite, si j'en transmettais, je paierais un service pour le faire et m'assurer un certain nombre de sécurité. Comme ça, si jamais ça leak, je peux les attaquer, quoi. Tu vois ce que je veux? Enfin, Snapchat dès le début, je leur fais pas confiance. Enfin, tous ces services secrets, machin, il y a un loup. Ils vendent bien quelque chose, donc il y a forcément des données. C'est pas juste avoir des utilisateurs pour avoir des utilisateurs. Alors je sais, ils ont commencé à mettre de la pub, mais
Et encore, il y a tout de même un truc qui est que à partir du moment où vous avez créé cette donnée, puisque finalement une photo c'est des données aussi, vous avez créé ces données et vous les transmettez quelque part, non seulement elles peuvent être interrompues, volées, espionnées, tout ça, mais la personne à laquelle vous l'envoyez, vous savez pas ce qu'il fait avec. Donc faut vraiment faire attention avec ça. Moi, ce qu'on dit depuis le début, c'est à partir du moment où vous ne seriez pas à l'aise de montrer la chose en question au monde entier ou à certaines personnes autres que la personne à laquelle vous l'envoyez spécifiquement, il faudrait a priori, à moins de vraiment 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 savoir ce que vous faites, ne pas l'envoyer tout court.
Oui, tout court.
Donc voilà,
Gardez vos la photos pour vous. Les photos à poil, il faut les garder pour soi.
comme toi, Jérôme, tu me les montres photos en direct quand on se voit en physique, quoi.
Non, moi je suis tellement parano que je les garde en fait sur leur carte. Je les mets même pas dans l'ordinateur.
Ah oui, d'accord. Okay. Elle reste sur la carte SD dans ton appareil photo et tu l'es, d'accord.
Exactement.
Je comprends. Très bien. Bon, bah écoutez, on arrive au milieu de l'émission et au milieu de l'émission, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez quoi ? J'ai même carrément oublié de le faire, de préparer mon truc. C'est le remerciement à mes patrons. Donc, je vais immédiatement remercier les patrons qui me permettent de faire cette émission. Et je vais remercier
avant que tu dises merci aux patrons et merci à tous pour votre support et votre soutien. Je vais devoir partir parce que je dois passer sur mon prochain rendez-vous. C'était comme d'habitude un plaisir de parler d'Apple et du reste parce qu'on a parlé beaucoup d'Apple. Et donc on se retrouve d'ici un mois. Au revoir à tous.
Merci beaucoup, Jeff. Bon courage.
Salut Jérôme. Salut. Un plaisir comme d'habitude. Ciao.
Salut.
Ciao.
Donc, je voulais remercier mes patrons qui me permettent de vivre, qui me permettent d'avoir un salaire. Je vais en dire un petit peu plus dans 2 secondes.
Je t'interromps, on dirait une pub de la journée « J'aime mon entreprise », tu sais. Merci patron, merci pour votre salaire.
Eh ben, tu vois, et la seule différence, c'est que chez moi, c'est sincère. Donc, je remercie Sebi, Amaury Hervoué, Bouga35, Pascal Simoens, Sébastien Balieu, Damien Villa, Benoît Tard, Benjamin Mousset, Aïst et Nounours. Merci à vous tous de votre soutien et de votre contribution au Rendez-vous Tech. Vous savez que je quitte mon emploi, ça arrive, mais alors là, plus que très bientôt, c'est-à-dire que avant l'enregistrement du prochain épisode, je serai employé de mes patrons Patreon. C'est mon dernier épisode en tant que salarié chez mon ancien employeur. Et évidemment, c'est quelque chose qui m'émeut énormément, qui m'angoisse un petit peu aussi. On n'est pas très très loin du deuxième palier sur Patreon. Je pense pas qu'on l'atteindra d'ici le 30 octobre. On a quand même un petit peu plus de $100 par épisode à faire. Donc je pense pas qu'on l'atteindra, on verra. Mais dans tous les cas, peu importe les paliers, les dates, qui est le patron de qui, vous le savez, si jamais vous pensez que l'émission vous apporte quelque chose, si elle a de la valeur pour vous, si c'est une émission que vous appréciez, que vous aimez bien écouter, et vous savez qu'elle prend beaucoup de travail à construire, dites-vous que peut-être que ça vaut $1, $2, $3 par épisode, que vous pourriez donner ça, l'équivalent d'un petit café, quoi, pour 7h30, 2h de... Bon, 1h, 1h30 d'amusement et d'information qu'on vous concocte. J'espère que l'émission vous apporte quelque chose, et si elle vous apporte quelque chose, pensez-y, c'est sur patreon.com/rdvtech. Vous pouvez aller aussi sur lrdv.fr, ça vous redirige là-bas, et vous pourrez m'aider à atteindre mon palier de stabilisation financière pour ce projet, pour cette émission, avant ou après la date du 30 octobre, où je serai ma seule source de revenus sera celle-là, sera mon activité sur Internet. Donc, je vous remercie par avance.
Moi, oui, je me fais porte-voix de l'ensemble de tes patrons, puisque j'en suis un aussi.
Oula.
Une chose m'inquiète, et je pose légitimement la question, nous sommes en France, nous sommes tes patrons, allons-nous payer des charges patronales sur ton Patreon? Bah écoute,
pour le moment, je suis auto-entrepreneur. Le jour où je créerai, si je dépasse le palier, parce que j'aurai d'autres activités, bien sûr, si je dépasse le palier et que je dois créer une entreprise, à un moment, il y aura certainement des charges patronales. Heureusement, c'est pas vous qui allez, enfin, ça sera payé sur la somme, ça va pas faire augmenter votre contribution tout à coup, si bah c'est oui, ta préoccupation.
C'est ça qui m'inquiète.
C'est juste que moi, j'aurai moins d'argent, en fait.
Parce qu'on va peut-être recevoir une petite notice. Vous devez 25 centimes de charge patronale, puisque vous êtes le patron de Patrick Béja, quoi.
Non, donc, non. Ça, tu peux te rassurer.
Parce que
ça
le
sera juste moi qui aurai moins d'argent, c'est tout.
En France, on ne le sait pas, mais il y a le net, il y a le brut, et après, il y a le brut chargé aussi.
Ah oui,
il y a plusieurs paliers quand même.
C'est vrai. Non, moi, c'est moi qui prends tout à ma charge, donc forcément. C'est pour ça que beaucoup de gens, il y a des gens qui disent « Ah oui, quand même, machin, tant de dollars, machin, ça fait quand même pas mal. » Oui, bien sûr, ça fait beaucoup, mais il y a les frais, les impôts, les taxes, tout ça. Donc, au final, moi, il n'empêche, je peux vous dire à tous que quand j'ai considéré le fait de me lancer dans cette aventure il y a quelques mois et que en tout début septembre j'ai relancé la campagne Patreon, je peux vous assurer que je voyais arriver la fin du mois d'octobre et que j'étais quand même un tout petit peu angoissé. Et ben là, grâce à vous, je suis quand même beaucoup plus rassuré et j'y vais avec beaucoup plus de sérénité. Donc merci.
Tu prends des bains au champagne tous les soirs?
Ah bah oui, bien sûr.
Ah
non,
bah
mais
oui,
c'est pour ça que je suis détendu et que je suis serein.
Par contre, tu pues, hein, parce que les bains au champagne, c'est pas top. Hein.
Ah, tu connais ça, toi. À l'époque de No Watch, c'était jacuzzi au champagne pour tout le monde.
Absolument, avec des perles qui flottaient.
C'est ça. Bon, donc voilà, si vous voulez faire partie aussi de l'équipe des patrons qui finance, qui propulse le Rendez-vous Tech, c'est sur lrdv.fr ou patreon.com/rdvtech. Petite note aussi, la transition de frenchspin.com à frenchspin.fr a été complétée. Donc maintenant, désormais, il faut aller sur frenchspin.fr pour les émissions en français. Et je vais avoir des émissions en anglais assez bientôt, comme on dit par chez moi, sur frenchspin.com. Donc ça va arriver aussi. Il y a des choses qui, j'espère, vous plairont. Il y a des choses qui se préparent pour le français aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, je serai à la NIPConf ce week-end. Donc c'est le week-end du 24. Enfin, ça commence le 24, vendredi 24. Et ça risque d'être intéressant. On aura donc un enregistrement d'un petit truc qu'on va faire là-bas que je mettrai à la fin du prochain épisode. J'espère que ça sera intéressant. Je vous en parlerai un petit peu. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez me suivre sur Twitter. Je suis NotPatrick. On va faire la suite avec les news et les rumeurs en parlant. Alors, j'ai beaucoup hésité à parler de ça et finalement, je ne vais pas trop le faire pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui m'ont demandé d'expliquer le Gamergate. On en a entendu parler à droite à gauche. Il y a plusieurs raisons qui font que je ne vais pas vraiment le faire aujourd'hui. D'une part, il faudrait bien une demi-heure. C'est tellement complexe qu'il faudrait une demi-heure pour en parler vraiment. Et je veux pas faire un résumé de cette histoire parce que le résumé serait... on peut pas parler de cette histoire sans en parler plus longuement. Ça serait pas juste. Ensuite, je suis encore employé de mon employeur qui est un développeur de jeux vidéo. Et comme ça a beaucoup à voir avec les jeux, je suis encore... je peux pas vraiment en parler pour ces raisons. L'autre raison, c'est que ça m'énerve énormément. J'ai fait un article sur Google Plus, tiens, si vous voulez, peut-être que je mettrai en lien dans l'émission. On a eu une conversation assez reposée. J'ai essayé de parler aux gens qui venaient me répondre. C'est en anglais, bien sûr. J'avais l'impression un petit peu de parler sans faire de jugement politique, de parler sur les questions d'avortement ou de peine de mort ou de permis de port d'armes ou de mariage gay ou ce genre de choses, quoi, ou d'évolution. C'est ce type de relation et ce type de dialogue qui s'instaure. C'est un petit peu compliqué. Moi, je réussis généralement à avoir des dialogues presque constructifs, mais c'est dur, quoi. Ça demande vraiment un investissement personnel et intellectuel qui est fort. Je vais pas donc beaucoup plus en parler. Ça a à voir avec la représentation des femmes dans les jeux vidéo. Selon certains, l'éthique des journalistes, qui selon moi est un petit peu une couverture ou mélangée avec la question de la représentation des femmes et le féminisme. L'éthique du journalisme est venue se calquer là-dessus et très sincèrement, ça colle pas tout à fait. Et ça a à voir avec le harcèlement et les pires recoins d'internet aussi. Et au final, tout ça vient se mélanger pour créer un scandale comme on les aime pas du tout. Donc c'est encore une fois quelque chose de compliqué. Peut-être que j'en parlerai à un moment, peut-être que je sais pas, je ferai une vidéo dessus ou un article ou je sais pas, on verra. Mais encore une fois, c'est beaucoup trop complexe pour en parler en deux minutes. Ce que je vais vous encourager à faire, si vous parlez anglais, et à vrai dire même si vous ne parlez pas anglais, parce que vous pourrez comprendre au moins un petit peu, c'est d'aller voir la série de vidéos d'Anita Sarkissian qui s'appelle Tropes vs Women in Video Games, qui se traduit en gros par les clichés sur les femmes dans les jeux vidéo. Anita Sarkissian est une féministe qui soulève des questions intéressantes sur la représentation de la femme dans les jeux vidéo et qui, à mon sens, sont des questions qui méritent d'être posées. Et sans aller plus loin dans mon appréciation de la chose, je vous encourage à aller regarder ces vidéos. Je mettrai un lien dans les notes de l'émission pour un lien vers les vidéos en question. C'est un sujet vraiment intéressant et c'est assez connexe à la tech parce qu'on parle souvent de la place des femmes dans le monde de la tech qui malheureusement sont souvent sous-représentées et comment appréhender la chose, c'est une question intéressante. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Je sais pas si Jérôme t'as un truc à ajouter, mais sans trop se lancer dans le débat.
Ouais, non, je me lance pas dans le débat, c'est juste moi en fait toute cette histoire me fait ressentir énormément de tristesse parce que pour être très bateau, tout ça se passe avec des instruments qui peuvent être des instruments de progrès et on a plutôt l'impression de revenir à des âges où on portait des côtes de maille et on mangeait avec les mains quoi. Enfin voilà, ouais. C'est il y a quelque chose de très triste dans toutes ces histoires, je trouve.
On est d'accord. Bon, parlons de quelque chose de plus enthousiasmant, la Tesla Model S D qui a deux moteurs et une sorte de pilotage automatique. C'est une voiture électrique, hein, vous connaissez Tesla qui est une société qui fait des voitures électriques. Qui fait du 0 à 100 en combien? 3 secondes, quelque chose comme ça. Il y a plusieurs modèles, le premier à $71,000, le deuxième à $120,000, c'est celle qui fait la plus grosse vitesse. Elle tient 450 km sur une charge. Et je sais pas si tu as vu la vidéo, Jérôme, mais elle est assez impressionnante avec cette accélération incroyable. Et puis ouais. Surtout, le fait qu'ils se mettent en conduite automatique. On n'est pas encore à du Google Car, mais ça a pas l'air d'être loin, quoi.
Ça va arriver très vite et j'attends ça avec une impatience, moi qui conduis pas. non, c'est et puis c'est très sympa de voir que. Alors je sais qu'il y a des débats autour de l'écologie des voitures électriques, mais passé ce débat, je trouve ça intéressant que la voiture électrique soit vraiment, vraiment maintenant sortie de son côté un peu pas très joli, ringard. Mmh. Enfin voilà, c'est des belles voitures, des voitures de prestige. Hein, c'est des voitures de luxe hein, là, avec des performances qui n'ont rien à envier à des voitures avec des moteurs à essence fossile, quoi.
Ouais. Donc Tesla Model S D, si vous n'avez pas vu les vidéos, allez chercher ça sur YouTube. Vous allez voir, c'était très bien mis en scène aussi, hein, avec des néons un peu partout la nuit. C'était magnifique. Microsoft sortirait une montre qui serait centrée sur le fitness dans les semaines à venir, avec une batterie de 2 jours. Attention, c'est quelque chose et qui pourrait être utilisé sur iOS, Android, Windows Phone, bien sûr. Bon, Microsoft se lancerait dans la course, hein, c'est une rumeur, pas si surprenant que ça, mais... Pourquoi pas? On attend ton nom de voir.
C'est terrible, mais quand j'ai vu la nouvelle, j'ai eu l'image d'un espèce de petit gamin en cours de sport, mais qui rate chaque fois les débuts des activités, tu sais. Il y a tous ses copains qui se mettent à courir et lui fait « Ah merde, c'est la course !» Alors il s'y met derrière. « Ah merde, on fait du saut de haie. Ok, j'y vais. » Je suis désolé de dire ça pour Microsoft parce qu'en plus c'est pas tout à fait vrai, ils innovent dans plein de domaines, mais là ça donne un peu l'image de oula, pourquoi ils font ça eux, oh il faut qu'on le fasse tout de suite, vite on la sort.
Bon, donc, je te laisse la paternité de cette image qui me fait bien rire, j'avoue. Mastercard serait en train de créer une carte de crédit avec lecteur d'empreintes digitales. Évidemment, il n'y aurait pas beaucoup d'électronique dans la carte elle-même, mais elle serait l'énergie et l'électronique seraient dans les lecteurs, dans le lecteur de cartes. Et vous auriez en fait, sur de la même manière qu'il y a la puce sur la carte à puce, de l'autre côté, il y aurait un petit lecteur d'empreintes digitales qui serait intégré à la carte pour sécuriser les traitements à la manière de Touch ID et des autres lecteurs d'empreintes.
C'est génial. Pourquoi maintenant pas. Les voleurs vont nous couper les doigts.
Bah écoute, oui. C'est... Alors il y a des gens qui voient le verre à moitié plein. Visiblement, toi tu le vois à moitié vide.
Non non, c'est vachement bien. Moi je voilà, j'attends aussi tout ça avec impatience, notamment pour remplacer tout ce qui est argent liquide, pouvoir payer des petites sommes, tout ce qui sera fait dans ce sens-là. Moi je suis pour, 100% pour la disparition de la monnaie papier.
Alors le problème avec cette carte, c'est que contrairement au lecteur sans contact, j'ai fait mon premier achat avec une carte sans contact d'ailleurs, il y a pas longtemps. Ouais.
J'ai trouvé ça incroyable. Fait mon premier achat dans l'Apple Store en scannant mon produit en sortant du magasin, et ah ça oui. ça fait bizarre. Hein. tu sais, j'avais presque envie d'aller vers le mec à l'entrée, de lui dire ouais, regarde, ouais. Je l'ai bien acheté, regardez.
bah oui, oui, non, mais c'est sûr.
Et,
c'est...
Mais eux aussi, les vendeurs aussi de l'Apple Store étaient surpris parce que j'ai quand même demandé un sac parce que j'ai envie ouais. de, je les trouve pratiques les sacs à dos là Apple. Ouais. Donc j'ai demandé un sac. Et le vendeur, il dit, ah, mais vous l'avez acheté en scannant, mais c'est la première fois que vous faites ça. Genre, on doit pas être beaucoup à le faire pour l'instant.
Oui, sans doute, ouais. Sans doute. C'est vrai. Mais donc, cette carte, je disais, j'ai payé sans contact, c'était magique. Je plaisantais un peu, hein. J'ai beaucoup de préoccupations sur la sécurité de ce type de paiement, ouais, entre ouais. parenthèses. Mais bon. Là, avec le lecteur de carte de crédit, ça serait pas sans contact parce qu'il faut l'énergie pour alimenter le lecteur. Donc, il faut brancher la carte quand même. Donc, c'est un petit peu, mais bon, c'est bien qu'ils essayent, en tout cas. Free ne se couchera pas devant Netflix et encore moins devant Google. Vous m'entendez, monsieur ? Le français restera fort. Bon, en fait, c'est un petit peu ça. C'est Xavier Niel qui dit qu'ils ne vont pas utiliser Android pour leur prochaine box pour ne pas être à la solde de Google et qu'ils ne vont pas mettre Netflix sur leur box pour ne pas être à la solde de Netflix. Ouais. Contrairement à tous les autres opérateurs qui, après de grands... il disait se coucher, effectivement, parce que tous les opérateurs ont fait de grands discours d'intention sur Netflix et non, ils ne passeront pas ici, on est en France, machin. Et finalement, ils finissent par tous mettre Netflix sur leur box. Évidemment, avec des sous, on s'en doute.
Ah oui.
Mais ce qui n'est pas sans me poser de problèmes philosophiques sur la question de la neutralité du net, entre parenthèses. Mais bon, passons sur ce sujet. Bon, c'est vrai que finalement, ils ont tous fini par se coucher. Free reste fort. Moi, je me demande quand même si c'est pas qu'une question d'argent, quoi. Mais bon, on verra. Peut-être plus philosophiquement avec Google, ils veulent pas de Google dans leur box. Je peux comprendre.
Ça n'a rien à voir avec la philosophie. Ça n'a rien à voir avec...
Bah, c'est même... avoir Android dans la box, ça veut dire quelque chose, hein.
Ouais.
Une box sur Android, tu la contrôles beaucoup moins que si tu as ta box avec ton OS propriétaire.
Oui, oui, oui. Non, mais... Bon, enfin, moi, j'ai jamais bien cru au côté Robin Croisade des Bois de Free. Pour moi, c'est du bon marketing. Attention, je critique pas. Mais voilà, il a un produit, il se bat lui sur le prix. Ce n'est pas un low coaster, contrairement à ce qu'on croit. C'est un discounter Free. Et bon, bah voilà, comme tous les discounters, ils vont rajouter un discours un peu philosophique à leur argument prix. Point. Voilà. Mais je crois pas trop à la philosophie de la chose.
Très bien. Piper Jaffray, qui est un cabinet d'études, a fait une étude qui montrerait que Facebook est en train d'être déserté par les adolescents. Ils étaient 72% à l'utiliser au printemps et ils ne sont plus que 45% à l'utiliser en automne. C'est une chute absolument vertigineuse. Presque 30% des utilisateurs adolescents, hein, qui auraient disparu en environ 6 mois. C'est énorme. C'est incroyable. Est-ce que c'est étonnant? Enfin, c'est crédible, je dirais. Mais à ce point-là, c'est quand même un petit peu surprenant.
Oui, moi, il faudrait quand même avoir un peu plus de chiffres. Mais ce que je constate, parce que c'est vrai qu'à travers mon métier, je suis obligé de regarder beaucoup hein, ce qui se passe sur Facebook, même si c'est pas ma passion, Facebook. J'ai envie de dire oui, on sent bien que les jeunes l'utilisent moins. Désertion, c'est peut-être un peu vite dit. Mais de toute façon, c'est pas très grave parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres populations qui arrivent sur Facebook et qui sont aussi très intéressantes. Pour les gens du marketing, alors c'est comme finalement tout ça c'est des sociétés, Facebook fait ça pour vendre de l'espace publicitaire à des annonceurs, c'est pas forcément une nouvelle dramatique pour Facebook. Après c'est peut-être une nouvelle dramatique en termes d'image, parce que Facebook a toujours aimé avoir ce côté cool, et là est un peu en train de devenir le TF1 des réseaux sociaux, si tu vois ce que
exactement.
Je veux dire.
Oui. Non, je trouve que l'analogie est assez bonne.
Mais bon,
c'est pas qu'on s'inquiète pour Facebook.
TF1 gagne plus d'argent que Canal Jimmy. Je sais même pas si Canal Jimmy existe encore, mais qu'une chaîne de jeunes, quoi. C'est peut-être
dire que Canal Jimmy c'est une chaîne de jeunes, ça prouve qu'on n'est plus tout à fait.
Oui, on n'est plus tout à fait jeunes. Bon, alors je sais pas ce que regardent les jeunes en fait aujourd'hui. Ils regardent YouTube.
Ouais, exactement.
Mais pas
c'est intéressant. Ils sont effectivement plus sur Facebook, moins sur Twitter, 4% de moins, beaucoup moins sur Google+, à peu près pareil sur Tumblr, un peu plus sur Pinterest qui continue à monter, pareil sur Reddit, et un petit peu plus sur Instagram encore, presque 3/4 des adolescents utiliseraient Instagram. On se doute que le reste de tout ça, c'est vers les messageries directes, type Snapchat, type WeChat, type tous ces trucs-là.
Ouais, donc, énormément d'SMS. Et alors, je commence à voir, alors c'est peut-être un phénomène parisien chez des jeunes super branchés, mais en laissant traîner mon oreille, en écoutant mes nièces et tout ça, je commence à voir poindre une tendance que je suis sûr va devenir mainstream chez les jeunes, qui vont être anti-technologie, anti-réseaux sociaux, qui reviendront même pas à l'analogique, mais qui en fait se détachent de plus en plus de ça pour revenir à des soirées vraies et aller boire des verres. Tu vois, une espèce de
aller se bourrer la gueule entre potes, quoi.
Bah voilà, c'est un peu ça, mais ça va être presque un contre-effet de la mode, et comme les jeunes sont quand même spécialistes de ça, de faire des contre-modes une fois qu'ils ont lancé une mode, je serais pas surpris de voir dans les années à venir un phénomène anti même smartphone, un retour au vieux téléphone. Ouais. Et au SMS. non, mais tu vas voir.
À mon avis, ça me paraît un peu poussé, un petit peu trop, mais peut-être.
Ça sera très hipster, ça sera très tendance. Ouais. Mais je commence à entendre des réflexions que qui m'ont fait tiquer quand même.
D'accord, bon, intéressant. Ouais. L'Irlande serait en train de durcir les règles fiscales pour les entreprises. On pourrait voir la fin du fameux paradis fiscal irlandais pour les entreprises high-tech. Vous savez, ce double Irish with a Dutch sandwich, qui était le terme qui était utilisé pour décrire cette manœuvre fiscale qui permettait aux entreprises de payer moins d'impôts ou de quasiment pas payer d'impôts. Bah, ça serait une très bonne chose parce que toute cette manœuvre était légale. Donc, voilà, il fallait effectivement s'attaquer au problème à la source. Il semblerait qu'ils soient en train d'être attaqués.
Dans l'absolu, c'est une très bonne chose, mais attendez-vous à payer certains produits plus chers aussi, hein.
Oh, je suis pas certain que ça. Peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Une initiative que je voulais saluer, c'est la restauration de l'atelier du peintre, qui est un tableau du musée d'Orsay sur Ulule. C'est-à-dire que vous pouvez être mécène de ce tableau directement sur Ulule, c'est un tableau de Courbet, Gustave Courbet, qui est financé pour une partie par le financement participatif avec un ou deux paliers. D'ailleurs, ils ont atteint leur premier palier. Il y en a un deuxième à 60 000 euros. Le premier était à 30 000. L'ensemble coûtera quand même 600 000 euros, financé au tiers par le musée d'Orsay, si je ne m'abuse, au tiers par des entreprises privées et un tiers possiblement par du financement participatif. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça montre à quel point le financement participatif ouvre des possibilités intéressantes. Alors, à côté de ça, on a vu l'Anona Box, qui était un projet d'anonymisation des communications sur Kickstarter, qui promettait un petit boîtier sur lequel on branchait sa connexion Internet et qui anonymisait tout, qui finalement a été annulé pour différentes raisons dans lesquelles je ne me rentrerai pas. Donc, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais là, on a de plus en plus de choses intéressantes qui se font avec ce type de financement différent, qui est enthousiasmant, quoi. Cette histoire de mécénat, de la restauration d'un tableau, ça revient aux sources du mécénat, quoi. Je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça très beau.
Ouais. Et moi, je me dis que Gustave Courbet aurait adoré l'iPhone 6 Plus.
Ah, c'est sûr. Ou est-ce qu'il n'aurait pas été plutôt fan d'Android?
Ben non, parce que il faut un iPhone qui courbait.
Ah,
tu l'avais pas saisi pas en fait.
Non, non, oh là là, c'est pas mal. D'accord, ok, très très ouais. bien. J'apprécie, j'approuve. Laura Poitras
Je t'accorde qu'elle était un peu tordue.
Elle était un peu, oui, capillotractée. Laura Poitras a sorti le documentaire sur Edward Snowden, Citizen 4. Je l'ai pas vu encore et j'ai hâte de le voir parce que c'est l'une des journalistes qui a participé au leak de Snowden. Donc voilà, ça s'appelle Citizen 4. Quand vous pourrez le voir, ne ratez pas l'occasion. Le Sénat, en parlant de Snowden, le Sénat a voté le blocage administratif des sites dont on vous parlait il y a quelque temps. C'est pas définitif. Il y a ensuite la commission paritaire qui doit voir proposer un nouveau texte mixte qui devrait arriver. Mais c'est passé quand même et ça nous inquiétait beaucoup. Et ben c'est passé. Uber continue à se faire taper sur la tête. Cette fois-ci peut-être un petit peu plus, de manière un peu plus compréhensive pour Uber Pop, le service qu'il proposait de covoiturage. Visiblement, il y aurait des aspects un petit peu illégaux pour ce service. Bon, le covoiturage, c'est bien quand même, mais il faut faire les choses dans les règles. Mais en même temps, est-ce qu'on ne tape pas trop sur Uber pour le principe à Paris ? Et bon, bref, encore une étape de plus à cette histoire sans fin. Et je voulais conclure avec une histoire qui m'a à la fois intéressé et inquiété. C'est cette histoire du réseau social pour médecins qui s'appelle Figure 1, qui est un réseau, une sorte d'Instagram où les médecins peuvent partager des photos et se demander les avis les uns les autres sur la nature des choses qu'ils étudient, parfois sur des patients. Alors évidemment, ils essayent de supprimer toutes les informations identifiantes des clichés. Mais quand on voit la manière dont ils discutent des choses, c'est un petit peu, je sais pas, c'est un petit peu inquiétant. Enfin, pas inquiétant, c'est pas le bon mot. Un petit peu, ça nous interpelle, on va dire. Il y a du langage internet à foison. C'est genre lol, rofl, ahaha, trop cool, machin. Enfin bon, peut-être pas trop cool, mais ce genre de langage internet. Avec des mimes, des commentaires un petit peu...
cabreux.
Non, même pas forcément scabreux, mais t'as l'impression d'être sur un forum, t'as un peu l'impression d'être sur Reddit, quoi. Ouais. Donc, alors, on se doute bien et on le sait bien, les médecins ont besoin de dédramatiser les choses, parce que bah, ça fait partie presque de la formation. Il faut qu'ils soient désensibilisés pour pouvoir faire leur travail en toute sérénité. Mais il n'empêche, ce type de langage dans un service comme ça, qui en plus, on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'ils y diffusent, les photos, est-ce qu'ils anonymisent vraiment tout. Enfin, bref, c'est une conséquence, une évolution inattendue. Enfin. Une évolution naturelle de l'arrivée des smartphones dans le quotidien et de la tech dans le quotidien de tout le monde, dans tous les domaines. Mais il n'empêche, ça interpelle un petit peu quand même quand on voit ça. La manière dont les médecins discutent des cas entre collègues, et je suis sûr que c'est hyper pratique parce que ça peut exposer un problème à beaucoup plus de gens qui vont évidemment avoir plus de chances de comprendre de quoi il s'agit. Donc on n'est pas en train de dire que c'est pas bien. Mais
tu t'es jamais retrouvé à l'hôpital quand t'as le médecin qui arrive avec sa ribambelle d'internes étudiants qu'il soulève le drap, et toi t'es à poil devant tout le monde quasiment. Et il dit, alors regardez, alors là on a un phénomène très rare, et t'en as deux trois qui pouffent dans le fond, c'est assez gênant aussi, hein.
C'est pas faux, c'est peut-être l'équivalent de cette.
Alors là,
c'est
peut-être à une plus grande échelle avec des lol et des smileys, mais quand tu, de toute façon, quand t'es patient, ceux qui ont été à l'hôpital sur des sessions assez longues, c'est une expérience toujours assez humiliante parce que on est un peu traité comme quelque chose de pas très humain, quoi. On est un, alors j'exagère, hein, les hôpitaux s'occupent très bien de nous, mais voilà, t'es un Le pire, c'est les chirurgiens. Tu sens que ils t'ouvrent comme un capot de voiture, quoi. Ouais.
Mais c'est par design, hein. C'est pensé comme ça.
Oui, non,
parce qu'il faut justement qu'il reste froid. Et
voilà, il faut pas qu'il y ait de l'émotif. Oui, mais enfin, avoir ça empêche pas d'être agréable, hein, parfois un petit peu avec les gens, hein, parce que parfois t'es vraiment traité comme un sac de viande, quoi. Bon, ouais. Bref.
D'accord. Et puis, entre parenthèses, la raison aussi pour laquelle je parlais de cette app, c'est que n'importe qui peut la télécharger et regarder. On ne peut mettre des choses que si on est médecin, mais par contre, enfin, a priori, on n'importe qui peut regarder. Donc,
ah bon? Oula, oui, ah oui, oui, là, oui, par contre, ça, c'est un peu gênant.
D'accord.
Oui. Ouais. Ouais. Non, je croyais que c'était entre médecins et qu'il y avait eu un leak pour qu'on voit. Ah oui, t'as pas de code, t'as pas de parrainage ou ce genre de truc.
Bah, quoi. Visiblement, non. Et puis, tu sais bien, les parrainages.
Oui,
ça,
oui,
ça,
oui.
Ça marche.
Ouais.
Ouais. Bon. Bon. Il faut pas s'inscrire au service avec, pas pour regarder, en tout cas, pour poster, oui, mais. Mm. Donc voilà. Bref, ça s'appelle Figure One, si vous voulez aller regarder tout ça. Moi, j'y suis pas allé. Et c'est sur ces bons mots qu'on va conclure l'émission. J'ai encore à peu près 50 sujets qu'on pourrait traiter, mais je crois qu'on va s'arrêter là. En fait, il y a un truc qu'il faut que je fasse, c'est que j'ajoute tellement de sujets.
C'est dingue. Non, mais quand tu me dis que je vais faire le rendez-vous tech, déjà, généralement, c'est un peu tard. Et je vois après le tableau avec tous les sujets à lire. Et tu sais ce que j'ai fait? Et si tu veux, je le partagerai. J'ai pris tous tes articles et j'en ai fait un petit flipboard. Et c'était beaucoup plus agréable à lire. Et oui.
Ah, oui, oui, effectivement, ça pourrait. Mais le fait, en fait, tu vois, les sujets supplémentaires en stock que les gens qui sont au niveau consultation des notes sur le Patreon connaissent, il y a quoi? Une cinquantaine de sujets en plus. Il faudrait que je réussisse à avoir assez de maîtrise du truc pour savoir que cela c'est pas la peine de les rajouter parce que c'est des sujets vraiment pas hyper suffisamment convaincants pour qu'on en parle dans l'émission. J'ai rajouté quand même, tu vois, depuis que j'ai commencé le rendez-vous tech, j'ai peur de rater un truc.
Non, mais tu devrais, tu vois, là, il y a par exemple un sujet, t'aurais dû le mettre parce que je trouve ça génial. C'est le club de comédie à Barcelone qui expérimente avec la reconnaissance faciale pour, et tu payeras au rire. Je trouve l'idée absolument géniale. Si on payait sa place de théâtre au rire qu'on a, d'un point de vue marketing, je trouve l'idée absolument brillante, quoi.
Effectivement, c'est intéressant. Et ce que tu dis pas, c'est que ça vient à côté d'une autre histoire que j'avais sélectionnée, qui était la manière dont les spécialistes du marketing sont en train de scanner non plus les textes qu'on met sur Internet, mais les photos qu'on met sur Internet, sur Instagram, etc., pour regarder les émotions et pour regarder les marques, s'il y a des logos, des choses comme ça, pour faire des recherches et pour cibler les clients potentiels. Donc, ils font de la recherche dans le sens où ils vont peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais associer une marque dont ils ont reconnu le logo dans une photo à une émotion qu'ils ont reconnue sur le visage de quelqu'un, par exemple, ils peuvent faire ce genre de choses, ou qui utilise telle ou telle marque, etc., etc. Mais j'ai trouvé ça aussi assez passionnant, le fait que les firmes, les sociétés de marketing sont maintenant en train de scanner et d'analyser les photos qu'on met sur nos applications de partage de photos, quoi.
C'est dingue. Bah, de toute façon, on est comme
c'est
ça.
C'est pas étonnant, encore une fois. Mais...
Ah bah non, les gens du marketing, dont je fais partie, on est des horribles personnes dès qu'on peut analyser quelque chose. Mais je rajoute quand même, on n'en a rien à foutre de qui c'est. J'ai du mal à l'expliquer aux gens, ils en voient. Mais voilà, le marketing.
Non, mais c'est moi que tu veux espionner. Jérôme.
Mais non, on s'en fout que tu t'appelles Patrick Béja. Par contre, ton sourire devant ton iPhone 6, oui, ça nous intéresse. Mais l'individu ne nous intéresse pas en tant que tel. C'est le comportement qui nous intéresse.
Voilà. Très bien. Bon, bah écoute, comme c'est toi, je te fais confiance.
Ouais, non, mais t'as tort.
Bon, et si vous voulez faire confiance, vous aussi, chers auditeurs, à Jérôme Kainborg, vous pouvez aller le suivre, par exemple, là où il va vous dire maintenant.
Eh bien, vous pouvez me suivre sur nowtech.tv, qui regroupe donc les tests vidéo d'applications mobiles et de petits ou de grands objets technologiques que j'aime bien tester et partager ça avec vous. Et je fais ça avec Marion.
Super. Ah oui, tiens, avant de vous dire au revoir, je voulais juste parler des commentaires de l'épisode précédent pour dire que plusieurs personnes ont parlé de la question de l'obsolescence programmée et qui j'y ai... On m'a rappelé des choses et j'y ai appris des choses que je ne savais pas. On m'a rappelé le fait que les cartouches d'encre sur les imprimantes avaient effectivement, il y avait eu un gros scandale sur le sujet, un élément d'obsolescence programmée. On parlait de l'obsolescence programmée dans la tech à l'épisode précédent. On parlait des appareils comme enfin les téléphones, etc., sur lesquels j'étais un peu sceptique. Et on m'a rappelé cet élément, les cartouches d'encre ont effectivement, il y a eu un scandale au moins un en tout cas avéré sur ce sujet, comme quoi bah elles marchaient un certain temps et puis après elles étaient vides et même s'il restait de l'encre c'était fini. Et il y a eu un autre gros scandale sur un documentaire notamment qu'on m'a linké, enfin un scandale, une affaire étonnante sur un documentaire d'Arte, c'est eux qui me l'ont appris, sur la question des ampoules. En fait, il y a des ampoules qui pourraient fonctionner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps que les ampoules qu'on utilise aujourd'hui, des ampoules à incandescence classique. Hein, et en fait, il y a eu un vrai concile de fabricants d'ampoules au premier tiers du siècle ou au milieu du siècle pour décider de faire durer les ampoules moins longtemps. Ouais. Et c'était assez surprenant, c'était très intéressant. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir des retours d'auditeurs sur le Rendez-vous Tech et que je suis vraiment heureux que vous participiez tous à cette communauté. C'est parce que on apprend des choses qu'on ne soupçonnait pas forcément. Et en gardant l'esprit ouvert comme ça, on regarde tous ces problèmes d'une manière un petit peu différente peut-être parfois. Et cette petite différence suffit à faire avancer les choses, je pense. Donc voilà, merci à vous tous qui êtes venus commenter. J'ai pas donné un nom spécifique cette fois-ci parce qu'il y avait plusieurs personnes, mais merci à vous. Et si vous voulez d'ailleurs venir commenter sur cet épisode, nous dire qu'on a trop parlé d'Apple par rapport à Google, que voulez-vous, c'est quand même encore des plus gros mastodontes dans ce domaine hein, qui font des choses un petit peu surprenantes. Et puis il s'est trouvé qu'ils maîtrisent leur communication tellement bien par rapport à un petit blog de Google que forcément ouais, on en parle un petit peu
pas,
plus.
Je suis pas d'accord avec la première partie de ta phrase. Google est devenu quand même... enfin. On peut pas dire qu'Apple domine le marché.
Non, je parlais de la communication. Non. Ah, mais je parle de la communication. Oui.
Oui.
Bah, en même temps. Je pense pas qu'on puisse dire qu'on tombe dans le piège Apple. C'est pas. Enfin bref, ça serait tout un autre débat.
Ouais,
mais.
Ça serait un autre
mais
débat.
Bon. Oui, ça serait un autre débat. Mais il y a. Bon, bref. Autre débat, on l'aura certainement sur les notes de l'émission. Vous pouvez venir sur frenchspin.fr maintenant. C'est frenchspin.fr pour nous laisser des commentaires. Vous pouvez aussi me suivre sur twitter.com/notepatrick. Et comme vous le savez, comme je l'ai répété, dans une semaine à peu près, je serai en train de voler sans filet, d'être un podcasteur professionnel. Vous vous rendez compte,
non, mais... C'était ton couteau.
Non, mais écoutez cette phrase. Podcasteur professionnel. Vous vous rendez compte? Je vais gagner ma vie en faisant du podcast. C'est incroyable. Et c'est grâce à vous. Et donc, si vous voulez, continuer à me soutenir, si vous pensez que l'émission, encore une fois, en vaut la peine, patreon.com/rdvtech ou lrdv.fr, le lien est partout. Merci à vous, merci à tous ceux qui sont des patrons déjà, merci à tous ceux qui le deviendront, merci à tous ceux qui écoutent sans forcément pouvoir devenir des patrons. Merci à vous tous, merci à la communauté et puis on se retrouve comme toujours dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao.
Salut
à tous.
Tout le monde.